des campagnes assez particulières que le Niger a connues au cours de son évolution démocratique, puisque il y avait cette question du vote par témoignage qui a divisé la classe politique et même la société civile. Il y a aussi ces quelques petits incidents qui ont survenu dans le cours de cette campagne, notamment la dispersion de militants d'une formation politique, celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc beaucoup avaient des craintes par rapport à ce scrutin, et finalement on peut se féliciter de ce qui se soit déroulé vraiment dans le calme.
Interrogé par l'AFP, le président de la commission électorale, Ibrahim Boubé, a reconnu des retards, notamment en raison de problèmes de véhicules, mais martelé que, dans tous les cas, tous les électeurs qui se présenteront vont voter. Et le président Issoufou est lui aussi revenu sur les retards constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Selon lui, et vous l'allez l'entendre, insister sur ces retards est un faux problème.
Non, vous ne voyez que les retards, je le sais. Vous ne voyez pas les bureaux de vote qui sont ouverts. Vous ne voyez que ce qui est négatif, que les retards. Il y a 25 000 bureaux de vote. Il y a combien de bureaux de vote qui ne sont pas ouverts? Vous pouvez me répondre?
Voilà, c'était donc le président Issoufou. Nicolas Pino, vous êtes notre envoyé spécial sur place. On parle donc de ces retards. Hein. Est-ce que vous avez senti un peu d'énervement devant certains bureaux de vote concernant ces retards? Nicolas Pino? Voilà, on va essayer de retrouver Nicolas Pino tout à l'heure. Ce qu'on peut ajouter, c'est que l'opposition nigérienne intime espère contraindre le chef de l'État sortant à un second tour. Hein. On va écouter Seyni Oumarou. Il est le chef de file de l'opposition au sortir de son bureau de vote.
C'est d'abord un sentiment de devoir accompli. Ensuite, en ce qui concerne donc ce processus électoral, c'est la fin donc de ce processus. Et nous pensons que Dieu nous aidera donc dans cette journée d'aujourd'hui pour que ce scrutin législatif et présidentiel se passe dans la sérénité, dans la paix. Et que le maire gagne.
Monsieur le Président, quelle appréciation portez-vous sur la situation qui se déroule actuellement à Tashkent?
Nous n'avons pas encore tous les éléments, mais ce que nous avons nous inquiète un peu. Et d'abord, au-delà de Tashkent, c'est un peu l'impréparation, en tout cas, par rapport donc à ce scrutin que nous observons d'abord. Pour nous, la CENI, en tout cas, n'a pas pris les dispositions idoines pour que les opérations de vote commencent à temps, parce que tout le monde sait que c'est à 8 heures que ça doit démarrer. Nous avons beaucoup d'échos qui nous viennent de l'intérieur, et par rapport auxquels le scrutin n'a toujours pas démarré dans beaucoup de localités, et cela nous inquiète. Des fois c'est le matériel, des fois c'est les membres du bureau même qui ne sont pas là. Les électeurs sont là des fois, les bureaux sont encore fermés. C'est vraiment un sentiment d'inquiétude parce que il y a quand même un temps qui est réservé donc à ce scrutin-là. Et nous tenons à ce que, en tout cas, les dispositions des textes soient respectées en la matière. Et que la CENI prenne les dispositions, en tout cas, pour très rapidement donc combler, disons, tout ce déficit-là et que les choses se passent très bien. Je suis confiant, comme je l'ai toujours été. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas confiant, surtout que j'ai fait le tour du Niger. J'ai été confiant à toutes les étapes, dans toutes les régions. Et la conclusion, c'est que je suis très confiant en tant que...
Voilà, Bagassi, c'était là Monsieur Seyni Oumarou, le chef de file de l'opposition, qui, de toute évidence, parlait en début de journée des problèmes là-bas, des difficultés.
Des difficultés, notamment ces retards. Hein. On retrouve Nicolas Pino sur le terrain. Bonsoir, Nicolas. Rebonsoir.
Rebonsoir, Bagassi.
Oui, alors on parle beaucoup de ces retards. Hein. Comment est-ce que la CENI a pu se réorganiser pour essayer de rattraper ces retards-là?
Alors écoutez, hein, la première réorganisation, c'est évidemment la prolongation finalement des horaires de vote. Car il faut bien le dire, à 8 heures, beaucoup de bureaux n'étaient pas encore livrés. Hier, lorsque nous avions fait un reportage, notamment dans la commune 5 de Niamey, on nous assurait que le matériel allait être livré à partir de 5h30 du matin. Il n'en était rien dans beaucoup de bureaux de vote ce matin. Mais Bagassi, c'est vrai qu'il faut quand même retenir le positif dans cette élection, puisque justement la participation est massive. Et nous avons rencontré sur VOA Afrique Jean Eyegendong, hein, qui est le président de la mission d'observation de l'Union africaine. Il y a à peine 2 heures, ce dernier regrettait les retards, mais il a bien insisté, pas d'irrégularité. Pour le moment, tout le vote se passe bien. Et donc, c'est un peu la note positive, hein, qu'il faut retenir. C'est vrai que les retards ont agacé notamment le président Mahamadou Issoufou lorsque la question lui a été posée par les journalistes. Mais globalement, tout se passe bien, sauf peut-être dans une localité, notamment dans la région de Tawa, où le matériel n'a pas été acheminé. Donc on votera demain, mon collègue Abdulrazak Idrissa, qui pourra certainement prononcer cette belle ville de la région de Tawa, Abdulrazak.
Voilà, merci Nicolas. Et donc nous avons également avec nous...
Baraden, le matériel n'ayant pas été acheminé à temps, en tout cas jusqu'à 14h de la journée d'aujourd'hui, le matériel n'était pas sur place. Donc, selon en tout cas des informations que nous avons depuis ce département qui se trouve dans la région de Tawa, le vote est reporté pour la journée de demain, lundi.
Voilà, merci à Nico et Abdulrazak. Nous avons aussi avec nous notre confrère Moussa Askar du journal L'Événement. Bonsoir Moussa.
Bonsoir.
Alors, une question qui a suscité beaucoup de controverses dans votre pays en rapport avec ces élections de ce dimanche, c'est la question du vote par témoignage. Qu'en est-il exactement?
Oui, vous savez, il y a 1 500 000 Nigériens qui ont été recensés par témoignage et que par la suite, les partis politiques, surtout de l'opposition, ont rejeté ce vote-là au sein du Conseil de dialogue politique. Donc, le gouvernement a saisi tout d'abord le Conseil d'État, qui a donné son avis favorable pour que ces Nigériens puissent voter. Et par la suite, l'opposition a également saisi la Cour constitutionnelle et qui vient de dire que la demande de l'opposition est infondée et elle a dit clairement que ces Nigériens-là, c'est 1 500 000 Nigériens qui sont inscrits sur les listes électorales et peuvent voter ce matin.
Alors Moussa, comment ça se passe concrètement le vote par témoignage?
Bon, le vote par témoignage, vous savez qu'au Niger, il y a très peu qui ont... il n'y a que 7% de Nigériens qui ont une carte d'identité. Si l'état civil est à terre et c'est la responsabilité de toute la classe politique, et que ce soit ce régime et les régimes qui sont précédés, ils n'ont pas su maîtriser l'état civil nigérien. Donc, la majorité des Nigériens n'ont pas de carte d'identité et il se trouve qu'ils sont inscrits sur des listes de carnets de famille et c'est avec ce document-là qu'ils se présentent devant les autorités. Et donc, le vote par témoignage, pour revenir à votre question, et c'est quand un électeur se présente, il n'a pas de carte d'identité, mais son nom figure sur la liste des électeurs. Et il peut toutefois voter avec son livret de famille, avec s'il est accompagné de quelqu'un qui puisse témoigner qu'il est effectivement, qu'il fait partie, qu'il est du quartier ou du village.
Alors, on va demander à quelqu'un qui était sur le terrain, qui a sillonné ce bureau de vote, Nicolas Pinault. Est-ce que parmi les incidents que vous avez pu constater, certains étaient liés au vote par témoignage, justement?
Oui, on ne va peut-être pas parler d'incidents, mais c'est vrai qu'au début, il y avait peut-être une mise en route qui pouvait être peut-être une forme d'incompréhension au début du bureau, soit de la part finalement des électeurs qui avait entendu parler de cette mesure, mais à part deux, et encore un incident, à part, je vous le dis, plutôt de l'incompréhension, parfois il n'y avait pas le nombre de personnes requises pour identifier, ou parfois il n'y avait pas la pièce d'identité requise pour identifier cette personne, ou alors la majorité des petits problèmes qu'on a constatés, et encore ce sont des petits problèmes, je le dis bien, c'est plutôt le nom des électeurs. Souvent, ils ont été mal orthographiés ou mal saisis lors, finalement, du recensement électoral, et donc beaucoup ont dû voir sur une liste, sur une liste annexe, ont dû finalement devoir réécrire leur nom. Et on l'a vu notamment sur notre page Facebook, Abdulrazak Idrissa, notre correspondant, lorsqu'il a voté dans son bureau de Lazaret, finalement, dans l'école OCSP Larmartine, eh bien, Abdulrazak a dû lui aussi, finalement, réécrire son nom à côté sur une liste annexe pour justement pouvoir voter. Mais au-delà de ça, on va retenir le positif, beaucoup finalement de participation, et ça c'est important. Ouais. Et voilà, Bagassi.
D'accord, merci Nicolas Pino. On nous signale aussi que nous avons en ligne, Tim, notre confrère Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Idrissa Maïga.
Bonsoir.
Oui, alors vous avez vécu donc cette campagne, vous avez vu cette journée électorale. Il n'y a pas eu d'incident majeur signalé jusqu'à présent. Hein. Alors, comparé aux élections passées, est-ce que ces élections d'aujourd'hui étaient les mieux organisées?
A priori, il faut dire que pour la journée d'aujourd'hui, ce qu'il faut déplorer, c'est l'ouverture des bureaux de vote avec deux heures de retard à certains endroits, certains même dans la mi-journée. Et comme votre correspondant vient de le dire, les élections, ils envisagent de l'organiser, les élections même à Ottawa le lendemain, ce qui est assez surprenant tout de même. On peut noter quelques désagréments dans le déroulement, l'organisation du vote, mais comparé aux élections de 2011, je peux dire que celles de 2011 ont été nettement mieux organisées que ces dernières élections. Ce qu'il faut constater pour ces dernières élections, c'est la forte affluence des électeurs au vu des enjeux qui sont en cours.
Voilà, merci bien. Donc, on a aussi le président qui fait face à 15 autres candidats, dont Amadou, qui est toujours en prison pour une affaire présumée de trafic de bébés. Et bien, Timothée, notre reporter sur le terrain, a pu rencontrer la femme donc, de Amadou, qui s'est dit satisfaite après avoir voté pour son mari qui est en prison.
Moi, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons pu quand même aboutir à un processus qui est l'organisation des élections législatives et présidentielles. Donc,
allez-y.
Et aujourd'hui, quand on voit, ici, je suis au bureau de vote numéro 027 et je vois depuis le matin, donc les électeurs sont sortis pour venir exercer leur droit de vote. Donc nous souhaitons que ces élections se passent dans le calme et la sérénité. Comme vous l'avez dit, c'est un moment décisif pour le Niger, l'élection présidentielle. Donc c'est pourquoi nous faisons appel à l'ensemble du peuple pour qu'ils aillent voter dans le calme et dans la sérénité. J'ai voté pour moi, à mon nom, et j'ai voté également en lieu et place de mon mari. Et le message que je voudrais adresser, je demande à l'ensemble du peuple nigérien de sortir pour aller voter, de sortir aller voter massivement pour sanctionner ce régime dont le mode de gestion du pouvoir et le mode de gouvernance ne répondent pas aux aspirations profondes du peuple.
Est-ce que vous êtes confiant?
Nous restons confiants. Restons confiants.
Voilà l'épouse de Amadou qui a voté aujourd'hui. Alors, Moussa Askar, on a donc le cas de M. Amadou, le cas assez particulier de M. Amadou qui est candidat à la présidentielle, mais qui en ce moment se trouve en prison. Quelle est au juste sa situation?
Bon, vous savez que Amadou est poursuivi pour une affaire criminelle. J'ai écouté tout à l'heure ce que disait son épouse, mais il est poursuivi pour une affaire criminelle et non politicienne. C'est une affaire qui concerne plus d'une, au moins une trentaine de personnes qui ont fait ce trafic, dont, je vous l'affirme, c'est nous qui avons soulevé ce lièvre-là. Donc, sa situation, aujourd'hui, il est en prison. Il n'a pas pu faire campagne, mais c'est un homme politique, il faut le reconnaître, redoutable. Donc, malheureusement, qui est impliqué. On aurait bien voulu qu'il soit sur la scène politique actuellement, puisque ce sont des élections avec des enjeux, et surtout la classe politique aujourd'hui nigérienne est vieillissante, et donc elle va traverser, à partir de ces élections-là, toute cette classe politique va certainement un peu disparaître, puisqu'il y a d'autres qui seront atteints par l'âge. Donc nous aurions aimé que le candidat Mamadou vraiment batte campagne, mais malheureusement il est impliqué dans une affaire criminelle.
Voilà, Amadou est impliqué dans une affaire criminelle, d'après vous, Moussa Askar. Alors, sur le déroulement même du scrutin, il faut dire que la sécurité a été renforcée. Les forces de sécurité étaient présentes dans chaque bureau de vote à Niamey, d'après des reporters sur le terrain. Et pour le chef des observateurs de l'Union africaine, rencontré par Nicolas Pino, notre envoyé spécial au Niger, le scrutin s'est bien déroulé.
Je dois d'abord dire que
En arrivant à Niamey, j'ai constaté le calme. Ça m'a rassuré parce que c'est la preuve que le peuple nigérien est conscient des enjeux en ce qui concerne les élections. Il y va de l'avenir de leur pays. Pour parler du scrutin proprement dit, disons ce matin, nous avons sillonné avec les membres de mon équipe plusieurs bureaux de vote. Là aussi, j'ai constaté que les Nigériens gardaient leur calme et que les élections se passaient normalement, en dehors des insuffisances dues à des retards ou à du retard du matériel. Par exemple, l'encre indélébile ou bien l'isoloir qui manquait dans certains bureaux. Mais ça a été réglé entre 8h et 10h. À partir de 10h, tout a été mis dans l'ordre. Sinon, vraiment, pour vous parler objectivement, il n'y aura pas de problème globalement parlant. Non, il n'y a pas d'irrégularité. Il n'y a même pas d'irrégularité, à mon avis. C'est vraiment la sérénité qui règne pratiquement dans tout le pays, parce que j'ai pris des informations de la part des observateurs qui sont dispersés à travers le territoire. Il n'y avait pas de... Jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas d'observation sur ce plan-là.
Voilà, c'était là Jean Eyege Ndong, le chef des observateurs de l'Union africaine à ses élections présidentielles et législatives du Niger. Soumana Idrissa Maïga, c'est un véritable satisfecit que M. Jean Eyege Ndong délivre à l'organisation de ces élections.
Pour l'instant, moi, je pense que c'est très tôt de s'aventurer sur ce terrain. Tout ce qu'on peut dire, ouais. Tout ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, le scrutin s'est déroulé dans le calme. On peut noter également une forte affluence des électeurs. Mais quant à dire qu'il y a des irrégularités ou pas, je pense qu'il faut attendre la fin du vote pour porter un jugement de valeur. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, le constat que les élections sont déroulées dans le calme sur l'ensemble du territoire. C'est les Nigériens dans leur ensemble qu'il faut féliciter pour leur sens élevé du civisme et surtout faire preuve de maturité parce qu'ils ont eu un comportement assez adéquat. Mais pour ce qui concerne l'irrégularité ou d'éventuels cas de fraude, je pense que c'est très tôt pour ces formations là.
Voilà. Donc, Abdoul Razak, vous êtes toujours en ligne, hein?
Merci, je suis en ligne.
Alors, tout à l'heure, Nicolas disait que, ou c'est vous-même qui le disiez, que demain, il y a encore certains bureaux de vote qui vont rouvrir. Hein. Je crois que cela va jouer sur le délai de publication des résultats qui est de 5 jours, je crois.
Disons qu'il n'y a pas un délai fixe, en tout cas pour la Commission électorale nationale, ouais, indépendante, pour livrer les premiers résultats globaux provisoires. Et comme Nicolas le disait précédemment, il a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le magistrat Boubé Ibrahim, qui a affirmé effectivement que les premiers résultats globaux provisoires seront connus 48 heures, c'est-à-dire au plus tard mardi dans l'après-midi. Maintenant, le report du vote au niveau de la région de Tawa, du département de Tchintabaraden particulièrement, est-ce que cela va jouer sur cette annonce du président de la CENI? On n'est pas très sûr. Dans tous les cas, c'est peut-être juste au niveau de ce département Tchintabaraden que le vote va être organisé demain lundi. C'est vrai que ça peut être possible pour d'autres localités puisque, selon en tout cas toujours nos sources et nos informations, il y a d'autres régions du pays, par exemple à Terra, où le vote a tardé aussi à démarrer. Donc on ne peut pas présager de ce que le report de ce scrutin pour demain matin, demain lundi, donc au niveau de Tchintabaraden, puisse jouer. En tout cas, c'est l'assurance que le président de la commission électorale a donnée et on va le croire jusqu'à la fin.
D'accord, merci. Merci donc Abdoul Razak Idrissa. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. C'est une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle et législative au Niger. Vous restez avec nous. On va donner les nouvelles, les autres nouvelles du jour. Et on revient sur l'émission, avec l'émission interactive, toujours hein, consacrée aux élections générales au Niger.
Dans le reste de l'actualité, en RCA, Faustin Archange Touadéra est élu président de la République à l'issue du second tour de la présidentielle du 14 février. Selon les résultats provisoires publiés samedi par l'Autorité nationale des élections, le candidat indépendant a recueilli 62,71% des voix contre 32,29% pour son rival Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier a reconnu sa défaite et assuré n'avoir aucune intention d'introduire des recours contre la victoire de Touadéra. Le président ougandais Yoweri Museveni a remercié ce dimanche ses compatriotes de lui avoir accordé un cinquième mandat au pouvoir depuis 1986. Le leader ougandais a recueilli jeudi 60,7% des voix. Son principal adversaire, l'opposant Kizza Besigye, a récolté 35,3% des suffrages. Il a dénoncé une parodie d'élection. Les observateurs de l'Union européenne et du Commonwealth ont eux aussi remis en cause l'impartialité de la commission électorale ougandaise. Élection présidentielle aux Comores où 25 candidats sont en lice. Les opérations ont pris du retard dans plusieurs régions du pays, faute de matériel électoral, c'est ce que rapporte l'AFP. Une certaine confusion régnait après la décision samedi de la commission électorale d'interdire le vote par procuration. Plusieurs présidents de bureaux de vote ont affirmé ce dimanche ne pas avoir reçu l'information. À noter que conformément à la constitution comorienne, le président sortant Ikililu Doyinine, qui a effectué un mandat de 5 ans, ne se représente pas cette fois-ci. L'Union européenne n'enverra pas d'observateurs à la présidentielle du 20 mars au Congo-Brazzaville, estimant que la récente réforme de la loi électorale dans ce pays ne garantissait pas le caractère transparent et démocratique du scrutin. Les modifications apportées qui manquent de transparence peuvent induire une insécurité juridique et ne semblent donc pas de nature à rassurer le caractère démocratique, inclusif et transparent de l'élection présidentielle, souligne l'Union européenne dans une déclaration. Pendant ce temps, au Zambie, le président Edgar Lungu prépare sa campagne pour la réélection. Il a promis à un groupe de femmes ce dimanche à Lusaka qu'il désignera une candidate à la vice-présidence pour la présidentielle du 11 août. Le leader zambien a saisi l'occasion pour encourager les femmes à participer massivement aux prochaines élections générales en Zambie. Et puis, près de 90 personnes ont été tuées ce dimanche dans une série d'attentats ayant frappé des zones tenues par le régime en Syrie. Le groupe extrémiste État islamique a revendiqué un double attentat à Homs, troisième ville du pays, où 57 personnes ont péri selon une ONG. 30 autres ont été tuées près d'un sanctuaire chiite au sud de Damas dans au moins 3 attaques. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé ce dimanche à Amman, en Jordanie, un accord provisoire en principe avec la Russie sur les modalités d'une éventuelle cessation des hostilités en Syrie. Et ici aux États-Unis, course à l'investiture pour les présidentielles américaines de novembre. Chez les démocrates, Mme Hillary Clinton a remporté une courte victoire samedi sur le sénateur Bernie Sanders hier au caucus de l'État du Nevada. Chez les républicains, l'homme d'affaires Donald Trump a remporté les primaires de la Caroline du Sud. Et l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, frère et fils de 2 anciens présidents, a quant à lui annoncé la suspension de sa campagne après avoir fini 4e en Caroline du Sud. Enfin, au Japon, des milliers de manifestants ont encerclé le Parlement à Tokyo. Aujourd'hui, c'était pour manifester contre la construction d'une nouvelle base américaine à Okinawa. Située à l'extrême sud de l'archipel nippon, Okinawa héberge plus de la moitié des 47 000 soldats américains présents au Japon, une cohabitation forcée qui est mal vécue. Les habitants se plaignent de nuisances sonores, des risques d'accidents et ils voient la porte ouverte à la criminalité. Voilà, c'était là le reste de l'actualité dans le monde bagassier.
Voilà, et Tim, il faut ajouter en sport, en football, donc aux Coupes d'Angleterre, cette large victoire de Chelsea, 5-1 face à Manchester City. C'était donc en Coupe d'Angleterre.
cœur de l'info sur VO.